des stops.
Nous venons en paix. Nous venons en paix. Nous venons en paix.
Chères écoutrices, chers écouteurs, salut, c'est Aristide Gluant qui vous parle. Vous allez bien? Ça va chez vous? Vous n'avez pas trop cette sensation d'étouffement, de rétrécissement de l'espace? Ça peut arriver, hein. Alors il y a plusieurs choses à faire dans ces cas-là. Prendre l'air, bon, c'est peut-être un peu compliqué par les temps qui courent. Hein.
Une heure par jour,
voilà, c'est ça. Ou alors vous évadez différemment à travers la littérature et peut-être même un certain type de littérature, je ne sais pas. Le roman d'aventure, d'exploration, allez voir chez Jules Verne, chez Roger Vercel ou chez n'importe qui vous permettrait de voir du pays, d'agrandir l'espace, d'élargir votre horizon. Ou bien vous pouvez aussi prendre le contre-pied de cette tendance, c'est-à-dire lire une vraie littérature de confinement, c'est-à-dire le roman de Romain Puertolas intitulé, vous allez comprendre, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Alors voilà, dans le genre confinement, ce mec-là a dû vivre une expérience assez remarquable. Bon, tout en étant fakir, hein, je pense qu'il avait certainement donc des prédispositions pour ce genre d'exercice. Néanmoins, nous allons nous pencher un peu sur son cas, mais d'abord sur le cas de l'auteur Romain Puertolas. Vous en avez peut-être entendu parler. Si vous êtes passionné de magie, de prestidigitation, vous avez peut-être aimé l'émission Trickbusters Show qu'il a créée en 2006 sur YouTube. C'était une émission dite d'anti-magie, où il s'amusait à dévoiler, à démystifier certains trucs, certaines astuces des prestidigitateurs et des autres illusionnistes. Ça n'a pas plu d'ailleurs à David Copperfield. Ouais, qui a réussi à faire fermer sa chaîne plusieurs fois parce que là, voilà, il dévoilait probablement des choses compromettantes à son sujet. Bon voilà. Alors je ne connaissais pas cette émission. Hein. C'est en me penchant un peu sur la vie de Romain Puertolas que j'ai appris ça. Alors ben, il est né en 75 à Montpellier dans une famille de militaires. Oui, son père est colonel dans l'armée de terre et sa mère adjudant-chef. Alors ça devait filer droit chez lui. Et puis bah, lui, donc, il est devenu écrivain, normal. Enfin, il a quand même été colonel de gendarmerie. Avant d'être écrivain, il a même appris à piloter un avion. Il a passé un diplôme en météorologie, puis une maîtrise en langue et littérature espagnole, et puis une licence en langue et littérature anglaise. Donc voilà, faut dire que voilà, je pense qu'il est très doué pour les langues. Le fait qu'il ait déménagé une trentaine de fois dans plusieurs pays différents a sûrement contribué à éveiller sa curiosité et son imagination. Voilà. Alors il a écrit beaucoup de romans qui ont tous été refusés jusqu'à celui-ci, donc L'extraordinaire voyage du fakir coincé, qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Je vais vous en lire un petit extrait après. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute de la musique d'abord pour s'aérer un peu les voix.
Hein,
ouais, j'avais très envie de vous faire écouter ça déjà la semaine dernière. C'est Jacques Higelin, capitaine dodécaphonique Dada.
Radio Halifax, Kleenex, pénis, pubis, tampax. Salut les flasques, planquez vos mandrax. Ici capitaine dodécaphonique Dada. Bourgeon. Radio Bouchetrou, la voix du sexe. La station des zazous de la zup. 3 495 293 MHz. Captain Dada en direct et hors taxe. De l'annexe du complexe prophylactique de Sphère. Nul.
Captain dodécaphonique Dada.
Et les miasmes, ça écluse
les CD. Dodécaphonique Captain Dada. Les CD.
vient de Mexico. S'est fait taxer son taco par Alex, le maxi minimaliste de la Texaco Sexy Corporation. Tandis qu'à Dax, Sioux et Fix, l'excellent marxiste Scato Sado Mazo de Yonax, malaxe ses excréments dans un mixeur en pirates expansés d'Ajaccio. Radio Bouche-Trou, la voix du sexe.
Décédé.
3 495 000 MHz. Sonde caphonique, Captain Dada. Ici Captain Dada. Décédé. Face aux Aztèques élastiques en latex de luxe, exclu du Ku Klux Klan, Axel, l'exquise gynécologue suisse, s'excite à fond la cuisse sur l'inoxydable pénis de Maxwell, le dissident dyslexique des sections d'exil xénophobes, qui astique son sax en onyx et s'extermine le pharynx dans le sphincter laxiste, je répète, dans le sphincter laxiste du sphinx. Relax. Radio Bouche-Trou.
Décédé.
Ici Captain Dodécaphonique Dada qui vous dit.
Allô, ici Aristide Gluant. Rassurez-vous, vous êtes toujours sur CFM, vous écoutez Desktop. Et je vous parlais de Romain Puertelas. Il y a une phrase d'Aurel San en exergue de son roman qui, je vous le rappelle, s'intitule « L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea ». Un roman spécial confinement, donc. Alors, cet exergue d'Aurel San, ça doit être une parole de chanson, je ne sais pas, je ne connais pas bien cet artiste. Au fond, je crois que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Voilà. Et une autre phrase, cette fois-ci signée Ajatashatru Lavash Patel, eh bien, il se trouve que c'est le nom du héros, qui nous dit « Un cœur, c'est un peu comme une grosse armoire ». Voilà les premières pages de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. C'est paru chez Le Dilettante, la collection Le Dilettante du livre de poche. Le premier mot que prononça l'Indien Ajatashatru Lavash Patel en arrivant en France fut un mot suédois, un comble. Ikea. Voilà ce qu'il prononça à mi-voix. Cela dit, il referma la porte de la vieille Mercedes rouge et patienta, les mains posées comme un enfant sage, sur ses genoux soyeux. Le conducteur de taxi, qui n'était pas sûr d'avoir bien entendu, se retourna vers son client, ce qui eut pour effet de faire craquer les petites billes en bois de son couvre-siège. Il vit sur la banquette arrière de son véhicule un homme d'âge moyen, grand, sec et noueux comme un arbre, le visage mat et barré d'une gigantesque moustache. De petits trous, séquelles d'une acné virulente, parsemaient ses joues creuses. Il avait plusieurs anneaux dans les oreilles et sur les lèvres, comme s'il avait voulu refermer tout cela après usage, à la manière d'une fermeture éclair. « Ah, le joli système !» pensa Gustave Palourde, qui vit là un fantastique remède contre les papotages incessants de sa femme. Le costume en soie grise et brillante de l'homme, sa cravate rouge qu'il n'avait pas pris la peine de nouer mais d'épingler, et sa chemise blanche, le tout horriblement froissé, témoignaient de nombreuses heures d'avion. Mais étrangement, il n'avait pas de bagages. Soit il est hindou, soit il a un sacré traumatisme crânien, pensa le chauffeur en voyant le gros turban blanc qui entourait la tête de son client. Mais son visage mat et barré d'une gigantesque moustache le faisait plutôt pencher pour un hindou. Ikea, Ikea, répéta l'Indien en laissant traîner la dernière voyelle. Lequel, what, Ikea ? Bafouilla Gustave qui se sentait aussi à l'aise en anglais qu'un chien sur une patinoire. Son passager haussa les épaules comme pour dire qu'il s'en fichait. Just Ikea, répéta-t-il. Donc Matezouane Batassi Yaya, Parjipan. C'est à peu près ce qu'entendit le conducteur, une suite confuse de gazouillis palato incompréhensible. Mais gazouillis palato ou pas, en 30 ans de métier passé chez Taxi Gitan, c'était bien la première fois qu'un client fraîchement débarqué du terminal 2C de l'aéroport Charles de Gaulle lui demandait de le conduire dans un magasin de meubles, car il n'avait pas souvenir qu'IKEA ait récemment ouvert une chaîne d'hôtels à son nom. Gustave avait eu des requêtes insolites, mais celle-là décrochait le coquetier. Si ce gars-là venait vraiment d'Inde, alors il avait payé une petite fortune et passé 8 heures dans un avion, tout cela dans le seul but de venir acheter des étagères Billy ou un fauteuil Pouang. Chapeau. Ou plutôt incroyable. Il faudrait qu'il note cette rencontre dans son livre d'or entre Demis Roussos et Salman Rushdie, qui lui avait un jour fait l'honneur de poser l'auguste postérieur sur les fauteuils léopards de son taxi et qu'il n'oublie surtout pas de raconter l'histoire à sa femme ce soir durant le dîner. Comme il n'avait en général rien à dire, c'était son épouse, dont la bouche pulpeuse n'était pas encore équipée d'une géniale fermeture éclair indienne, qui monopolisait la conversation à table pendant que leur fille envoyait des textos mal orthographiés à des jeunes de son âge qui ne savaient même pas lire. Ça changerait un peu pour une fois. Ok. Le taxi gitan, qui avait passé ses 3 derniers week-ends à sillonner avec les dames en question les couloirs bleus et jaunes du magasin suédois afin de meubler la nouvelle caravane familiale, savait bien que l'IKEA le plus proche était celui de Roissy-Paris-Nord, à seulement 8,25€ de là. Il jeta donc son dévolu sur celui de Paris-Sud-Thiers, situé à l'opposé, de l'autre côté de la capitale, à 3/4 d'heure de route de l'endroit où il se trouvait à présent. Après tout, le touriste voulait un IKEA, il n'avait pas spécifié lequel. Et puis, avec son beau costume en soie et sa cravate, il devait s'agir d'un richissime industriel indien. Il n'était pas à quelques dizaines d'euros près, non ? Content de lui, Gustave calcula rapidement combien la course lui rapporterait et se frotta les mains. Puis il appuya sur le bouton du taximètre et démarra. En définitive, la journée commençait plutôt bien. Fakir de son état, Ajatashatru Lavache, prononcé Jatashtacharu Lavache, avait décidé de voyager incognito pour sa première venue en Europe. À cette occasion, il avait troqué son uniforme, qui consistait en un pagne en forme d'énorme couche de nouveau-né, contre un costume en soie brillante et une cravate louée pour une bouchée de pain à Jamal, prononcé Jemal. Un vieillard du village qui avait été représentant durant sa jeunesse pour une célèbre marque de shampoing et en conservait encore de belles boucles grisâtres. En enfilant la panoplie qu'il garderait pendant les 2 jours que durerait son escapade, l'Indien avait secrètement désiré qu'on le prenne pour un richissime industriel indien au point de ne pas mettre d'habits confortables, entendez, un survêtement et des sandalettes, pour un trajet en autocar de 3 heures et un vol de 8h15. Se faire passer pour ce qu'il n'était pas, c'était son métier, après tout, il était fakir. Pour des raisons religieuses, il n'avait donc conservé que son turban sur la tête. Dessous poussaient inlassablement ses cheveux, qu'il estimait aujourd'hui d'une longueur de 40 cm et d'une population de 30 000 âmes, microbes et poux confondus. En entrant dans le taxi ce jour-là, Ajatashatru, prononcé « achète un charou », avait tout de suite remarqué que son accoutrement avait fait son petit effet auprès de l'Européen, et ce, malgré son nœud de cravate que ni lui ni son cousin n'avaient su faire, même pas après les explications pourtant claires mais tremblantes d'un Jamal parkinsonien, et qu'ils avaient donc attaché avec une épingle à nourrice. Détail mineur qui avait dû rester inaperçu au milieu d'un tel éclat d'élégance. Un coup d'œil dans le rétroviseur ne suffisant pas pour contempler une telle beauté, le Français s'était même retourné sur son siège pour mieux l'admirer, faisant bruyamment craquer les os de son cou comme s'il s'apprêtait à réaliser un numéro de contorsion. « IKEA ? IKEA ? Lequel ? What IKEA ?» avait bafouillé le chauffeur, apparemment aussi à l'aise en anglais qu'une vache sacrée sur une patinoire. « Just IKEA, doesn't matter. The one you better suit you. You're the Parisian. » Le chauffeur s'était frotté les mains en souriant, puis avait démarré. Il a mordu à l'hameçon, avait pensé à Jatashatru, prononcé « j'ai un tas de shorts à trous ». Satisfait. Finalement, son nouveau look remplissait sa mission à merveille. Avec un peu de chance, et s'il n'avait pas trop à ouvrir la bouche, on le prendrait même pour un autochtone. Voilà, c'était les 2 premiers chapitres de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA. Un petit peu de musique pour digérer tout ça ?
Clementine.
You say you will if you could, but you can't. I love you madly. Let my imagination run away with you gladly.
Brand new angle that we recommend.
Seaside rendezvous. I feel so romantic. Can we do it again? Can we do it again sometime?
Oh, I like that.
Fantastic. C'est la vie, madame et messieurs.
With that geranium, this time of year,
it's so fashionable.
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea. It's such a
jollification, as a matter of fact.
So très charmant, my dear. Underneath the moonlight, together we'll shine across the sea. Reminiscing every night.
In the meantime, baby,
I ask you to be my Valentine. You say
sensational. Seaside rendezvous.
So adorable.
Seaside rendezvous.
Woo-hoo.
Seaside rendezvous.
Give us a kiss.
Ah, c'est joli ça, on s'en lasse pas. Vous avez été très nombreux à me la redemander. Bah oui, c'était Queen Seaside Rendezvous. Voilà. Je continue la lecture de l'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA. Ajatashatru était célèbre dans tout le Rajasthan pour avaler des sabres escamotables, manger des bris de verre en sucre sans calories, se planter des aiguilles truquées dans les bras et pour une ribambelle d'autres tours de passe-passe dont il était le seul avec ses cousins à connaître le secret et auquel il donnait volontiers le nom de pouvoir magique pour envoûter les foules. Aussi, lorsqu'il fallut payer la note du taxi, qui s'élevait à 98,45 €, notre fakir tendit le seul billet dont il disposait pour tout son séjour, un faux billet de 100 € imprimé seulement d'un côté, tout en faisant un geste nonchalant au conducteur pour lui dire qu'il pouvait garder la monnaie. Au moment où celui-ci le glissait dans son portefeuille, Ajatashatru fit diversion en signalant de son index les immenses lettres jaunes IKEA qui trônaient fièrement sur le bâtiment bleu. Le gitan leva les yeux au ciel, assez longtemps pour que son client puisse tirer prestement sur l'élastique invisible qui reliait son petit doigt au billet vert. En un dixième de seconde, l'argent fut à nouveau entre les mains de son propriétaire originel. « Ah, tenez !» lança le chauffeur, croyant le billet au chaud dans son portefeuille. « Voici le numéro de mon agence, au cas où vous auriez besoin d'un taxi pour le retour. On a des conducteurs de fourgonnettes aussi, si vous êtes chargé. Même en kit, les meubles, ça prend sacrément de place, croyez-moi. » Il ne sut jamais si l'Indien avait compris quelque chose de ce qu'il venait de dire. Il fouilla dans la boîte à gants et en sortit une petite carte en papier Bristol sur laquelle on pouvait voir une danseuse de flamenco s'éventer avec le célèbre tricorne en plastique blanc posé sur le toit des taxis. Il la lui tendit. « Merci, » dit l'étranger, en français. Une fois la Mercedes rouge de taxi gitan disparue, sans que l'illusionniste, habitué à ne faire disparaître que des éléphants d'Inde à petites oreilles, y soit directement pour quelque chose, Ajatashatru rangea la carte dans sa poche et étudia l'immense entrepôt commercial qui s'étendait devant lui. En 2009, IKEA avait renoncé à l'idée d'ouvrir ses premiers magasins en Inde, la loi locale imposant aux dirigeants suédois de partager la gérance de leurs établissements avec des directeurs de nationalité indienne, actionnaires majoritaires de surcroît, ce qui avait fait bondir le géant nordique. Il ne partagerait le pactole avec personne et encore moins avec des charmeurs de serpents moustachus, adeptes de comédies musicales kitsch. Parallèlement à cela, le leader mondial du prêt-à-meubler avait établi un partenariat avec l'UNICEF afin de lutter contre le travail et l'esclavagisme des enfants. Le projet, qui impliquait 500 villages du nord de l'Inde, avait permis la construction de plusieurs centres de santé, de nutrition et d'éducation dans toute la région. C'est dans une de ces écoles qu'Ajatashatru avait atterri après avoir été viré avec pertes et fracas et dès sa première semaine de travail de la cour du Maharaja Legro Singh Le, prononçait le gros cinglé, où il venait d'être embauché comme fakir bouffon. Il avait eu le malheur de voler un morceau de pain au sésame, du beurre sans cholestérol et de grappes de raisin bio. En définitif, il avait eu le malheur d'avoir faim. En punition, on lui avait d'abord rasé la moustache, ce qui était une peine déjà sévère en soi, bien que cela ait été pour effet de le rajeunir. Puis on lui avait proposé de choisir entre faire de la prévention auprès des enfants contre le vol et la délinquance dans les écoles, ou se faire couper la main droite. Après tout, un fakir ne craignait ni la douleur ni la mort. À la grande surprise de son public, qu'il avait habitué à assister à des actes de mutilation en tout genre, brochettes de viande dans les bras, fourchettes dans les joues, sabres dans le ventre, Ajat Achatrou avait décliné l'offre d'amputation et s'était décidé pour la première option. Voilà, je vais m'arrêter là. On en est où ? Bah oui, ça suffit, hein, puis je commence à avoir ça en plus. Je vous remercie de votre écoute. Vous êtes toujours sur CFM. C'était Aristide Gluant pour Desktop. Je vous rappelle que je vous ai lu l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Écrivez-moi sur ma boîte mail Aristide Gluant. Pardon, je me rappelle jamais de cette adresse, c'est fou ça. Bah écoutez, écrivez-moi sur ma page Facebook, c'est plus simple. Desktop CFM, je serais vraiment ravi de vous lire. Portez-vous bien, salut et à la semaine prochaine.